Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 22 janvier 90.
Il reste à préciser ce qu'est la personne pour Plotin. Ce que nous avons vu, les stoïciens et les sceptiques. Plotin, c'est une philosophie néoplatonicienne à tendance mystique, c'est-à-dire une intériorité très profonde qui n'exclut pas du reste, il faut bien dire, toute la voie d'extériorité. Mais il y a un primat de l'intériorité sur l'extériorité. Chez Plotin, la personne humaine est saisie dans une pure intériorité, l'intériorité contemplative de l'âme, qui redécouvre sa parenté avec le nous, mais plus profondément avec l'âme. La difficulté d'une certaine manière, on pourrait dire que chez Plotin, il n'y a plus de personne humaine, mais il y a le dépassement de l'homme dans l'un, dans l'hypostase divine. C'est presque un nirvana. Ce qui intéresse Plotin, c'est beaucoup plus le retour de l'âme vers l'un, exigé du fait qu'elle émane du nous, unie à l'un, que le problème de l'autonomie de l'âme-esprit. Et dans la personne, il y a une recherche d'une certaine autonomie, on le verra, un certain tout qui se tient par soi. Le problème de la subsistance au niveau de l'homme, au niveau de l'âme. Tandis que chez Plotin, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est l'aspect mystique de cette union profonde, plus que le problème propre de l'individualité. Ce qui l'intéresse, c'est ce retour vers l'un. Et donc, le dépassement de la personne humaine, le dépassement de l'individu humain qui est l'âme unie au corps pour redécouvrir l'absolu divin. Alors, on peut se poser la question, peut-être est-ce là aussi une manière originale de comprendre ce qu'est la personne. La personne est divine en elle-même. Et je possède en moi ce divin. Car elle est apparentée à l'un. Mon âme est apparentée à l'un. Elle est unie à l'un. C'est l'un qui fait la personne. Trouillard, qui est le grand spécialiste de Plotin. Trouillard, dans un article sur Plotin et le moi, a voulu montrer que Plotin était personnaliste, au sens large du terme. Pour cela, il s'est attaché à réfuter les trois grandes objections qui se présentent dès qu'on parle de personnalisme. À propos de la doctrine de l'Antiquité, objection selon lesquelles la philosophie antique est une philosophie des essences et non de l'existence, de la totalité et non de l'individu, et interprète le devenir selon le schéma du retour cyclique, non dans une perspective historique. C'est très vrai, il y a tout un courant qui veut montrer que personne n'existe pas dans la philosophie grecque, ce qui n'est pas juste du tout. Si on comprend comment, dans Aristote, le point de vue de l'amitié et de l'amour d'amitié fait qu'il y a vraiment une autonomie et une certaine domination à l'égard de la multiplicité. Et qu'il y a, même chez Plotin, un absolu. Vous voyez, tout dépend si vous regardez la personne comme un absolu ou comme l'autonomie. Je crois que c'est ça qui est important à saisir. L'autonomie, nous allons le voir progressivement, est entrée dans le problème de la personne par le point de vue psychologique. Pour le psychologue, ce qui intéresse avant tout, c'est l'autonomie. Pour le philosophe, objectif. Qu'est-ce qui est premier dans la personne? C'est pas l'autonomie. C'est beaucoup plus l'absolu. C'est-à-dire là où l'homme trouve sa finalité. personne est liée à la finalité. Chez Aristote, chez les stoïciens et chez Platon. Mais il y a diverses manières de regarder la finalité. La finalité, chez Aristote, est découverte en premier lieu dans l'amitié. La finalité, chez les stoïciens, elle est trouvée dans la domination de soi. Et la finalité est trouvée chez Plotin dans l'union avec l'un, le retour vers l'un. Mais je crois que cela nous permet de comprendre que la recherche de la personne chez les Grecs, dans la philosophie grecque, c'est le point de vue du bonheur. La personne, c'est ce qui dans l'homme permet à l'homme d'être parfaitement lui-même. Pas dans son autonomie, mais parfaitement lui-même. Si je suis parfaitement moi-même, en atteignant ma fin, c'est ça qui est important. C'est pas le problème de l'autonomie qui commande la recherche de la personne. C'est le problème de la finalité. On essaiera de comparer aux termes, mais ça je crois que je peux le dire. En toute objectivité, par rapport à Aristote, par rapport aux stoïciens, par rapport à Platon, parce que la philosophie platonienne est une sorte d'amalgame du stoïcisme, de l'aristotélisme et de Platon. Il y a les trois qui sont présents dans Platon. C'est pour ça que c'est très difficile de bien comprendre Platon. Il y a les trois. Quand je dis amalgame, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'unité chez Platon, mais de fait, il utilise Aristote, il utilise les stoïciens, et la référence, c'est Platon. Platon, c'est le divin Platon. Platon, c'est la révélation pour Platon. Parce que Platon est d'une certaine manière un théologien, dont la référence, c'est Platon. Aristote, bien qu'il critique les catégories, et prend la métaphysique d'Aristote, de l'ousia et de l'acte. Alors l'ousia et l'acte se situent à ce niveau. L'ousia, c'est l'intelligence, et l'acte, c'est le lien entre l'ousia et l'un. Très curieux. L'acte n'est pas ce qu'il y a d'ultime. Ce qu'il y a d'ultime, c'est l'un. Pour Aristote, l'un est propriété de l'acte et l'un est propriété de l'ousia. Alors, on fait de la propriété le dépassement absolu. Personne humaine. personne divine. Voyez, Plotin fait l'intermédiaire. Parce que d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est dans la lumière de l'un qu'il regarde la personne humaine. Et à ce point de vue-là, c'est un théologien. C'est un regard de sagesse. Dans la lumière de l'un, il regarde l'homme. Et ça, c'est vrai. Plotin regarde l'homme dans la lumière de l'un. Nous allons maintenant regarder les théologiens à partir de la foi à la révélation. Les théologiens vont regarder l'homme. Et tout le problème des théologiens sera d'essayer de comprendre. Ça fait la grande épreuve en mathématiques. deuxièmement, à propos du mystère du Christ, comment l'union de la nature humaine, assumée par le Verbe, comment la nature humaine dans le Christ, avec la nature du Verbe, peut se réaliser dans l'unité. Comment dans la dualité, il peut y avoir une unité plus profonde. C'est un peu le problème inverse. De l'un, on va vers le 3. De la dualité, on retrouve l'unité. Mais c'est deux problèmes qui sont analogues. Ajoutons que ce qui rendait le problème particulièrement complexe, c'est que on passe de la langue grecque à la langue latine. Et ça, ça complique terriblement le problème des théologiens. C'est un passage extrêmement intéressant, du reste. Pour ceux qui aiment la philologie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais il y a quelques livres philologiques qui sont intéressants à voir sur le problème du langage. Le Cratyle, chez Platon, c'est le problème de l'origine étymologique des mots. Le Cratyle, c'est très intéressant à lire. Chez Cicéron, le passage du latin au grec. Ça, on le retrouve constamment chez Cicéron. Cicéron a ce souci constant de montrer le passage du grec au latin. Il y aurait Isidore de Séville, dont on a lancé un coup de chapeau l'autre jour, hein, majestueux, qui recherche les étymologies, qui a le souci de retrouver les étymologies. Alors ça, ça reste un niveau langage. Saint-Augustin, Avicenne, Saint-Thomas dépassent complètement le point de vue philologique pour regarder le point de vue de la signification des mots. C'est ça qui les intéresse. Donc on retrouve une théologie et une philosophie. Mais il faut bien comprendre que le problème dominant des pères de l'Église et des grands théologiens du Moyen-Âge, ce n'est pas premièrement savoir ce qu'est la personne humaine, mais ce qu'est la personne divine. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse dire que le problème de la personne est un problème de philosophie chrétienne. Je ne crois pas. Parce que de fait, il n'y a pas chez ces théologiens un souci de savoir ce qu'est la personne humaine. Ils l'empruntent aux philosophes. Et leur souci, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne divine. Comment l'un peut contenir trois et comment deux peuvent se ramener à l'unité. Alors, tout le problème chez ces théologiens, c'est le problème de la relation entre le point de vue de la nature et de la personne, de l'essence et de la personne, de la substance et de la personne. Ça dépendra, vous voyez, on substance, nature, essence et la personne. Le mot personne se retrouvera toujours, mais on verra nature, essence, substance. Vous allez voir, c'est intéressant à ce point de vue-là. Saint-Augustin. Chez Saint-Augustin, la théologie de la personne demeure complexe. Oui, je ne les prends pas tous, hein, parce qu'en vrai, tout un traité des pères de l'Église, ce serait intéressant, ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine de faire une topique propre aux pères de l'Église. l'Église sur le problème de la personne. Si vous vous intéressez au père de l'Église, c'est très intéressant. Parce qu'on voit que c'est quand même un nœud fondamental à leur théologie. Alors, chez saint Augustin, la théologie de la personne demeure complexe en effet. Si persona est chez lui un terme absolu, non un terme relatif. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'en sont pas moins des relatifs purs, excluant, semble-t-il, toute subsistance. C'est très curieux ça, parce que saint Augustin reste à un niveau assez psychologique, au niveau de la vie, des opérations vitales, psychologiques au sens du dianima. C'est pour ça que les orthodoxes ont une peine énorme de supporter saint Augustin, le docteur latin, qui est tout perverti. Dans la perspective de certains orthodoxes d'aujourd'hui, saint Augustin, c'est la bête noire. C'est le docteur latin. Et le latin, pour un grec, c'est jamais fameux. C'est du juridisme et du psychologisme. C'est intéressant quand vous voyez un théologien orthodoxe. Il y en a à Paris, n'est-ce pas? Ils ont leur école, ils ont leur université orthodoxe. trois éléments, le mince, la notitia et l'amour. C'est les trois aspects de l'imago dei. Mince, c'est l'esprit, vous traduisez mince, l'esprit. Notitia, la connaissance et l'amour. Et il dira aussi memoria, intelligentsia, voluntas. Oui. Le reflet de la très sainte Trinité dans l'imago dei. Ce n'est pas la nature qu'il regarde, c'est l'imago dei. Mais l'imago dei implique une nature. Et cette nature spirituelle qui est l'âme impliquera la mémoire, l'intelligence et la volonté. Parce que Saint Ambroise n'a pas... pas hésité de copier des passages entiers de Plotin. Il les a baptisés comme ça. Il les considère comme sa théologie. C'est très curieux, ça. Alors, Ambroise et Augustin, il y a des liens. Mais c'est surtout Platon. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que chez saint Augustin, il y a une théorie de la personne. Alors, celui qui va jouer un rôle très important dans toute la tradition latine des théologiens, ce qui nous intéresse avant tout, c'est Boès. C'est un très drôle de bonhomme. Hein. C'est quelqu'un d'assez particulier. Parce que Boès introduit l'aristotélisme en terre latine, dans la culture latine. Il va commenter les catégories d'Aristote. En ce qui concerne la personne, l'apport de Boès est beaucoup plus important que celui de saint Augustin. Après avoir, dans ses commentaires de Porphyre, où il n'emploie guère le terme de persona, présenté la forme de l'individu comme constitué d'accidents, comme une réalité d'ordre accidentel, Boès, dans son commentaire d'Aristote, dans ses commentaires d'Aristote, présente l'individu comme une réalité substantielle. Et dans son dernier ouvrage, le De Consolatione Philosophiae, donc au sujet de la consolation de la philosophie, qui est un ouvrage philosophique, il montre comment l'homme est semblable à Dieu par la mince et appelé à une vocation divine par la connaissance, la liberté et l'amour. Mais c'est dans ses ouvrages théologiques que Boès précise la notion de personne. La définition qu'il en donne est bien connue. Elle a été répétée. Et saint Thomas la reprend. Donc il faut bien comprendre cette définition qu'il donne dans son opuscule sur la dualité des personnes, des natures et l'unité de personne, donc sur le mystère de l'incarnation. Alors voici la définition de la personne chez Boès. Il faut la connaître. Si la personne, c'est du Boès, hein, traduit, si la personne se trouve seulement dans les substances, et en celles-là, seules qui sont raisonnables, et si toute substance est une nature et ne réside pas dans les êtres, dans les universels, c'est dans les individus. La définition de la personne est donc trouvée. La personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Saint Thomas essaiera de commenter ça directement. Donc la personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Alors vous voyez tout ce qui est dedans. Hein. Substance individuelle, nature. On rassemble tout ça. La personne est là. Elle a essayé de penser ça. La personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. C'est donc un bos, puisque c'est une substance individuelle. C'est pas la substance principe, c'est la substance réalisée dans un corps individuel d'une nature raisonnable. C'est pas si bête. Hein. La preuve, c'est que ça a été de Boès jusque je ne sais pas quel est le dernier scolastique, peut-être Bellarmin, qui a repris ça. Ça, c'est un fil conducteur à travers tous les pères latins. Tous les pères latins. Les Grecs, évidemment, n'ont pas recours à Boès. Mais il y a deux courants chez les pères grecs et les pères latins. Les pères grecs, c'est hypostasis. Les pères latins, persona. Hypostasis, le terme de Plotin qui va faire Florès. Mais saint Thomas va essayer de faire la synthèse des Grecs et des Latins. Il ne faut pas l'oublier, ça. Saint Thomas a toujours un pied du côté grec, un pied du côté latin. Et saint Thomas, ce serait une très belle manière de présenter saint Thomas. Je ne crois pas qu'on l'ait fait. Parce que saint Thomas est quand même peu de temps après la séparation, la division, le schisme, grec-latin, à propos du filioque, mais surtout à propos de Byzance, qui n'accepte pas de regarder Rome comme la fille aînée. Sainte-Sophie veut être Sainte-Sophie, c'est-à-dire Byzance veut rester égale.